Chapitre 3. La Seconde Guerre mondiale, 1939-1945. Cours 3. La France dans la guerre, 1939-1945. Quelles conséquences politiques et sociales la défaite de 1940 a-t-elle pour la France et pour les Français? A. 1939-1940, de la drôle de guerre à la défaite. 1. La défaite de 1940. En septembre 1939, la mobilisation générale s'effectue en bon ordre. Commence alors une drôle de guerre. Les lignes de défense françaises, Maginot, et allemandes, Siegfried, sont le lieu d'un étrange face-à-face, marqué par l'absence de combats d'importance et l'ennui. Le 10 mai 1940, Hitler lance la bataille de France qui met un terme brutal à cette période confuse. La stratégie militaire défensive française s'avère inadaptée à la guerre éclair. Les Ardennes franchies, l'avancée des troupes allemandes est rapide. Un mouvement de panique gagne les civils, engendrant un exode des populations. Parallèlement, le gouvernement quitte Paris pour Tours, puis Bordeaux. 2. Le choix de l'armistice et ses conséquences immédiates. Dans ce contexte d'effondrement total, le gouvernement est divisé sur la conduite à tenir. Le choix de continuer la guerre depuis l'Afrique du Nord avec le soutien du Royaume-Uni, soutenu par le président du Conseil Paul Reynaud, est tenu en échec par les partisans de l'armistice, rangés derrière le maréchal Pétain. Annoncé aux Français le 17 juin, l'armistice, signé le 22, semble accueilli avec soulagement. Pourtant, il implique une occupation partielle du territoire, désormais divisé par une ligne de démarcation, un coût financier énorme, entretien des troupes d'occupation, et la non-libération des prisonniers de guerre. B. 1940-1944, Vichy, un régime autoritaire, collaborateur et raciste. 1. Un régime qui met fin à la République. Pour le maréchal Pétain, l'armistice doit permettre à la France un redressement qui passe dans les faits par la fin de la République. Réuni à Vichy le 10 juillet 1940, la majorité des parlementaires lui confie les pleins pouvoirs afin de promulguer une nouvelle constitution de l'État français. C'est la fin de la Troisième République. Par les actes constitutionnels promulgués dès le 11 juillet 1940, le chef de l'État français dispose de l'essentiel des pouvoirs. Un culte du chef est organisé autour de la figure du sauveur de la France, auquel tous les serviteurs de l'État doivent prêter serment de fidélité. 2. Un régime autoritaire et répressif. La Révolution nationale fait du triptyque « travail, famille, patrie » la clé du relèvement. Le projet est traditionnaliste, nationaliste et réactionnaire. Un travail par lequel l'individu sert la société, une famille dominée par son chef, une patrie pour laquelle tous doivent se sacrifier. La propagande sert la diffusion de cette idéologie. La répression, judiciaire et policière, frappe tous les opposants. Le premier statut des Juifs, promulgué dès le 3 octobre 1940, instaure un antisémitisme d'État. 3. Un régime qui fait le choix de la collaboration. Le principe d'une collaboration entre la puissance occupante et l'État français est posé lors de l'entrevue de Montoire, 24 octobre 1940. Soutenu par l'espoir, illusoire, d'améliorer à terme le sort de la France, cette collaboration est à la fois politique, militaire, aéroport mis à disposition en 1941, et administrative. L'administration française sert le maintien de l'ordre allemand. À partir de 1942, l'État français fournit une contribution appréciable à l'effort de guerre allemand, produits industriels et agricoles. La création de la milice, 1943, illustre une répression policière conjointe à l'encontre des résistants. C. 1940-1945, refus de l'occupation et du régime de Vichy. 1. Une résistance précoce et multiforme. Dès le 18 juin 1940, l'armistice est dénoncé depuis Londres par le général de Gaulle, prélude à l'organisation d'une résistance extérieure autour de la France libre. Sur le territoire national, particulièrement en zone occupée, une première résistance voit le jour dès 1940. Elle se manifeste par des actes isolés de petits groupes. Ainsi, celui du Musée de l'Homme conjugue des actions de propagande, tract, journal résistance, de renseignement, d'aide à l'évasion de prisonniers de guerre. Avec le temps, la résistance se structure au sein d'organisations, les réseaux spécialisés dans des opérations paramilitaires et les mouvements qui mènent des actions militaires et politiques. En février 1943, l'instauration du service du travail obligatoire, STO, entraîne la création des maquis formés par les jeunes qui le refusent. 2. Résistance intérieure et résistance extérieure, de la rencontre à l'action concertée. Pour asseoir sa légitimité auprès des alliés, le général de Gaulle doit unifier la résistance derrière lui autour de deux objectifs communs: libérer le territoire et restaurer la République. Dans cette marche vers l'unité d'action, Jean Moulin joue un rôle décisif. Il est l'artisan de la fusion des mouvements de zone sud, combat, libération, franc-tireur, et de la création du Conseil national de la résistance, CNR, qui reconnaît l'autorité du général de Gaulle. Après le débarquement de Normandie en juin 1944, les différentes forces armées, Forces françaises de l'intérieur, FFI, Forces françaises libres, FFL, jouent un rôle inégal dans la libération du territoire. Leur participation militaire au débarquement de Provence, comme au combat de la libération, sert toutefois l'affirmation politique du gouvernement provisoire de la République française, GPRF, fondé à Alger en 1944. En août 1944, Paris est libéré et le 26 août, De Gaulle y défile, acclamé par une foule immense.